Mathilde Janin, bonjour.
Bonjour Gérard.
Vous publiez Soror aux éditions Actes Sud, un roman. Et avant de commencer cette interview, j'aimerais qu'on éclaircisse le titre Soror. Ça vient de sœur, je suppose.
Alors, ça vient de sœur, effectivement, c'est la racine latine. Je dois avouer que ce titre a été vraiment choisi à la dernière minute, juste avant l'envoi du manuscrit à mon éditrice, du manuscrit définitif. Je l'ai plus choisi pour des raisons de sonorité presque que de sens, à savoir qu'il m'évoquait les mots anglais « sorrow » et « horror », « horreur » donc, avec un très mauvais accent. Et je dois avouer que c'est un mot comme ça un peu magique qui est tombé à la dernière minute après 7 années de travail où le manuscrit avait connu plein de titres différents dont aucun ne me satisfaisait. Et d'un coup, j'ai eu l'impression, oui, de trouver un mot qui regrouper toutes les idées que j'avais derrière, effectivement celle de, d'une communauté de femmes déjà, vu que c'est un roman qui parle de femmes, ces mots, sorrow et aurore, l'aspect peut-être un peu gothique du livre qui peut exister par moments, sorrow ça renvoyait aussi pour moi à sorcière, c'est la même racine. Donc voilà, il y avait un peu tout ça dans ce titre qui est vraiment apparu en 5 secondes de révélation, d'épiphanie, et que mon éditrice a validé immédiatement.
Parfait, voilà. Donc j'y avais imaginé un peu par rapport à cette famille, puisqu'on va parler de la famille Drou, entre autres, et des frères, et puis d'une sœur que vous qualifiez dès le départ de créature antipathique et butée. Donc j'avais pensé que c'était elle qui avait généré ce titre.
Non, il y a beaucoup de figures de sœurs dans Soror. Il y a effectivement cette sœur qui apparaît dès le début. Mais il y a surtout tous mes personnages féminins sont des sœurs. Nicolas est une sœur qui a perdu son frère. Rita vit au milieu d'une sororerie. J'ai dû inventer ce mot, c'est un néologisme parce qu'il n'y a pas de mot pour dire fraternité au féminin dans la langue française. Donc voilà, sororité ne veut pas dire, ce n'est pas le féminin de fraternité. Donc j'ai dû inventer ce terme de sororerie. Elle n'a que 2 sœurs, pas d'autres frères. La question d'être une sœur traverse le livre. Elles sont toutes des sœurs, mais surtout, il y a aussi les rapports qu'elles inventent entre elles, de miroirs pour se construire, de proximité, d'amour qui ne peuvent pas se vivre au niveau sentimental et sexuel, pas toujours. Et donc, je crois que ce sentiment de sororité, c'est quelque chose que vivent beaucoup les femmes dans leur amitié. Elles se construisent beaucoup en miroir les unes des autres, probablement parce qu'il leur manque des récits, des grands récits fédérateurs qui les représentent. Elles ne se retrouvent pas forcément dans l'histoire du cinéma, ou l'histoire de la littérature, l'histoire de la fiction, qui est une histoire très masculine. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que moi, avec mes amis, et la plupart des jeunes femmes ou jeunes filles que je connais, on fait assez rapidement sororité quand on se rencontre.
Il y a un lieu qui est très très important, c'est Aulnois.
Oui.
À la fois par le lieu, et je dirais par les personnages qui presque hante cet endroit.
Effectivement, alors Aulnois, c'est un motif, quand je parlais de roman gothique tout à l'heure, voilà, on y est, c'est un château, un ancien château qui a été reconverti en école d'élite, où effectivement étudient mes personnages dans la première partie du livre, la partie qui concerne leur enfance. Et c'est un lieu effectivement hanté, on sent qu'il est hanté, mais par quoi ? Et c'est là toute la question du livre qui se résout in fine que dans les dernières pages. Et encore, pas totalement. Je voulais créer un objet qui soit traversé par... on peut presque croire au début qu'on aura affaire à quelque chose de l'ordre du surnaturel, du fantastique. Puis finalement, vu que ce sentiment-là s'éclaire à la fin, on est dans ce qu'on peut définir comme de l'étrange, c'est-à-dire un sentiment fantastique qui, en fait, trouve une réponse, une résolution rationnelle. Oui, Aulnois, c'est un lieu hanté par des drames qui se découvrent au fur et à mesure du récit.
Alors nous allons parler des personnages. À Aulnois, il y a par exemple ce personnage dont on va voir quelle importance finalement il va prendre dans ses secrets à la fin du roman, c'est Frank Schaeffer.
Oui.
Cet intendant, mais il y a aussi donc bien le directeur de l'école, le responsable pédagogique, Paul Lalande, et puis le fils Eric. Il y a aussi dans les autres personnages l'actrice, ce personnage qui est à la fois un personnage un peu de mythologie presque, Magdalena, et tout ça avec un rythme musical de violon ou de violoncelle un peu lancinant.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours écrit sur la musique, où je suis toujours partie de musique pour écrire. Je crois que c'est vraiment ce qui m'habite. Je suis pas musicienne moi-même. Disons que je suis une musicienne très peu talentueuse. J'ai toujours eu plus de facilité pour manier les mots que pour manier les instruments. Donc, je crois que c'est toujours un désir de musicalité qui fait partir le désir d'écriture. Et donc, c'est vrai que la spécificité d'Aulnois, c'est que les personnages qui évoluent, les élèves qui y sont inscrits étudient la musique, sont en section musique-études. Et je crois que ce motif de la musique qui était déjà présent dans mon précédent roman Riviera, c'est quelque chose qui risque de traverser toute mon œuvre, puisque pour moi, écrire, c'est vraiment agencer des mots pour produire une forme musicale. La dimension codifique du livre, puisqu'on y revient, qui existe plus dans la première moitié que dans la seconde, elle a été aussi extrêmement conditionnée par ce que j'ai pu lire ces dernières années, par les autrices qui m'influencent, qui influent sur ma manière d'écrire et qui ont une approche extrêmement musicale. Moi, j'ai passé ces 7 dernières années hantée par la langue d'Emily Dickinson, par celle de Joyce Carol Oates, qui a écrit beaucoup de romans gothiques, par celle de Daphné du Maurier, qui sont effectivement des langues de l'étrange, du non-dit. Étonnamment, et tous ces non-dits passent par le son, parce qu'il n'est pas dit entre les sons.
Vous évoquiez effectivement cet aspect gothique du roman, mais il y a l'une des personnages, Légion, qui est vraiment le personnage gothique dans toute sa splendeur, mais avec, je dirais, des blessures, des secrets qu'elle essaie de fuir en parcourant les routes, et toujours aussi à travers la musique.
Alors, Légion, finalement, elle ressemble pas mal à ce personnage que vous évoquiez juste avant de l'actrice. C'est-à-dire que comme l'actrice, Légion, elle a un côté où elle est pure construction. À ceci de particulier que l'actrice, elle, est construite comme le sont beaucoup d'actrices, c'est-à-dire par un fantasme, qui est un fantasme plutôt masculin, et je parle de masculin, non pas dans le sens de genre masculin, d'individu masculin, mais d'un imaginaire masculin, qui peut traverser aussi les femmes. Alors que Légion, elle se construit, elle aussi, effectivement, ou elle est construite par le désir des autres, mais elle se construit beaucoup toute seule. C'est quelqu'un qui s'invente, effectivement, qui fuit. On comprend rapidement que son mouvement, c'est celui de la fuite, c'est celui du départ, c'est celui du voyage, c'est celui de la circulation. Et ce qui lui permet finalement peut-être de se laisser un peu derrière, effectivement, et surtout de s'inventer. C'est quelqu'un qui est sur une ligne de devenir, une ligne de fuite, et qui, je pense, a ceci de singulier comme personnage féminin, effectivement, d'assumer complètement le fait de s'inventer.
Alors il y a Nicolas également. Alors Nicolas, au début, j'ai eu un petit moment à comprendre que c'était une fille.
Oui, effectivement.
Un peu
Écoutez,
trouble.
j'avoue que j'ai été troublée assez longtemps par ce choix. Les noms des personnages se sont un peu imposés d'eux-mêmes. Nicolas, j'ai choisi ce prénom parce que quand j'avais l'âge de Nicolas, c'est-à-dire elle a 13 ans dans le roman quand on la rencontre, enfin on l'a su plus tard adulte, mais on l'a su une grande partie de son adolescence, ben, c'était tout simplement le prénom que je rêvais d'avoir. Et je ne pouvais pas me débarrasser du fait que j'ai voulu laisser parler certaines choses de moi sans forcément les brider dans ce texte, certaines choses inconscientes. Et il m'a semblé là qu'il y avait un élément un peu clé de ce que je suis, à savoir ce prénom effectivement très ambigu, italien, mais très ambigu, dont je rêvais moi-même au moment de la puberté. Et donc, je me suis dit, voilà, ça fait sens, garde-le. C'est vrai que si on revient à Légion, bon, bah, Légion, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on associerait plutôt au masculin. Voilà. Il y a tout un jeu, effectivement, des identités de genre qui sont un peu troubles. Et je pense que ça fait partie de mon imaginaire. Et que c'est quelque chose que je n'ai pas eu envie de retirer en me disant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est intéressant. Laissons-le là.
Vous citez une citation de l'Évangile selon Marc, Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, mais j'ai l'impression que dans chacun des personnages, ils sont nombreux.
Oui, effectivement, ils sont tous pluriels. Ils s'inventent tous. Il y a effectivement la question des histoires qu'ils se racontent à eux-mêmes, de la façon dont ils se présentent au monde, des parts d'eux auxquelles ils ont accès, et puis celles qui restent complètement inaccessibles. Je pense qu'on est tous comme ça extrêmement stratifiés. Et c'est vrai que ça m'intéressait de peindre ces personnages dans les différentes couches de leur complexité et de leur imaginaire.
Alors vous racontez à travers tous les personnages qui parcourent le roman. Leurs enfants, c'est une enfance avec à la fois des traumatismes, avec des violences, notamment ce sont des jeunes filles dans une société qui finalement n'aime pas justement voir ses adolescents libres et voudrait peut-être les enfermer dans ces murs et qui sont ici un peu signifiés par justement les murs de ce château.
Je ne sais pas si moi je considère que la société n'aime pas voir ces jeunes filles libres. C'est vrai que ce sont les mots de mon éditrice sur la quatrième de couverture. Je ne pense pas, moi, en tout cas, avoir réfléchi consciemment là-dessus. Je suis partie à la base d'une envie de parler d'une certaine expérience de la féminité et de l'enfance quand on est perçu comme un être féminin, et de la puberté, puis de l'âge de jeune femme. Enfin, je voulais parler de toutes ces choses-là, et c'était il y a 7 ans. Donc voilà, j'ai commencé à écrire sans trop savoir ce que je disais. Il fallait que ça sorte, mais je ne savais pas ce que je disais. Il s'avère qu'effectivement, ces dernières années, toutes les intuitions qui sont développées dans le roman, toutes les réflexions, toutes les pistes qui sont lancées, elles ont rejoint un débat politique, public, qui a vraiment, je pense, commencé en 2017 avec MeToo, à savoir que moi, j'étais dans des interrogations qui me semblaient singulières et personnelles et peut-être un peu, pourrait presque dire pathologiques, ou en tout cas uniques. Puis j'ai réalisé qu'elle rejoignait finalement des conditions, des questionnements plus politiques, qui sont la question de la condition des personnes perçues comme femmes dans l'espace public. Et des violences qu'elles subissent.
Il y a une ambiguïté aussi, quelque part, de la place de ces adolescentes qui ont une envie, d'une soif de liberté que peut-être, justement, les adultes ne leur reconnaissent pas.
Bah, de toute façon, je pense que ce qui habite les filles encore aujourd'hui et puis les femmes dans la société depuis une société moderne, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, c'est cette envie de liberté qui se dérobe et qu'il faut justement s'approprier en se construisant. On ne naît pas femme, on le devient, et la question c'est comment est-ce que justement ce devenir, on peut jouer avec, et jouer dans le sens de jeu de quelque chose qui pivote, parce que c'est pas très amusant en fait, c'est pas un jeu très rigolo, mais voilà, il y a effectivement une marge de liberté quand on est une femme qu'il faut arracher. Un peu avec les dents et les ongles. Et je crois que tous les personnages féminins dans ce livre sont représentatifs de ça, chacun avec des questionnements différents. Les préoccupations de l'actrice ne sont évidemment pas les mêmes que celles de Rita ou celles de Légion, mais finalement, c'est un peu ce même mouvement de dégagement qu'elles essayent d'opérer.
Quelle l'époque vous situez exactement ce roman ?
L'enfance de Nicolas, c'est le milieu des années 90. Le chapitre qui clôt le roman avec Rita, je pense qu'on est juste avant ou juste après MeToo. C'est une traversée d'une expérience aussi de ce que c'est qu'être une femme dans l'espace public, vraiment à hauteur de ce que j'ai vécu. Moi, j'étais ado au milieu des années 90, voilà, et je pense que j'ai pu vivre une énorme, je dirais, j'aime pas ce mot de libération, mais en tout cas un grand changement de positionnement et de regard sur le monde en 2017. Donc le livre colle vraiment à ce voyage intérieur. Je suis pas allée inventer bien loin pour ça.
Alors, il y a les secrets lourds à porter. On en parle beaucoup aujourd'hui d'agressions sexuelles envers les enfants. Il y a une ambiguïté d'ailleurs au début du roman entre cette relation père-fille. Puis de temps en temps, on entend parler de ce qui a pu se passer entre les murs d'Aulnoy, avec une sorte de, je dirais, de déni.
Moi, c'est le projet du roman. Je voulais interroger ce qui n'est pas dissible. Je voulais aussi interroger ce qui n'est pas entendable. On a beaucoup, effectivement, entendu parler de libération de la parole ces derniers temps. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce terme, parce que je pense pas que ce soit très libérateur de parler. C'est extrêmement angoissant, c'est une charge lourde. Il y a la honte, il y a la peur de pas être crue. Mais effectivement, les victimes parlent. Elles parlent pas toujours comme on voudrait qu'elles parlent. Là, elles ont trouvé collectivement une manière de dire, en très peu de signes sur Twitter, voilà, il m'est arrivé ça, c'est très factuel. Mais en fait, en réalité, dans les rapports, c'est pas comme ça que ça se dessine. Vous tombez amoureux, vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites pas j'ai été violée ou j'ai été abusée enfant. Ou... Enfin, vous êtes au café, vous discutez avec quelqu'un qui vous dit ah bah c'est marrant, t'as des réactions comme ça parfois. Vous dites pas bah c'est des conséquences de mon psychotrauma. Donc en fait, on parle pas forcément comme c'est attendu. Et puis surtout, et ben quand on arrive à peut-être un morceau de vérité, il est peut-être un peu trop violent pour être entendu aussi. Il y a des tas de choses qui ne sont pas écoutées. Effectivement, vous parliez d'ambiguïté dès le début. On sent qu'il y a quelque chose entre ce père et cette fille, mais ce n'est pas dit. Et tout le long du roman, il va y avoir quelque chose comme ça qui se joue de « mais est-ce que ces abus sont réels ?» Moi, j'ai voulu donner au lecteur la possibilité d'interroger son propre regard. Le récit se déroule devant les yeux. Qu'est-ce que lui, il en comprend ? Est-ce que lui, il verrait des abus là ou est-ce qu'il comme les adultes du livre, fermeraient les yeux. Est-ce que ils fantasment ces abus ou est-ce qu'ils sont réels? Mon but était pas de raconter une histoire où tout est résolu à la fin et où on dit voilà comment il fallait lire ce livre, mais plutôt de dire comment est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous avez perçu vous, de ce discours? Qu'est-ce que vous auriez cru? Qu'est-ce que vous auriez refusé de croire si vous aviez été là?
Alors il y a quelque chose quand même qui est très important dans ce roman, c'est l'amitié. L'amitié
Oui.
qui lie tous les personnages.
Oui, effectivement. Quand j'ai commencé le livre, je pensais écrire juste sur les enfants et sur ces très belles amitiés qu'on peut vivre adolescentes, comme je disais, notamment entre femmes, où je pense qu'on se cherche l'une dans l'autre parce qu'on ne peut pas vraiment se chercher dans la grande fiction collective. Et puis, à ce moment-là, je vivais une rupture amicale très forte. C'est ainsi que les personnages de Légion et Rita sont apparus, en fait. J'avais besoin d'écrire là-dessus, sur cette relation, qui est finalement une reproduction d'une relation adolescente, mais à l'âge adulte, avec je crois, une belle amitié assez singulière entre deux femmes, qui va cependant échouer parce qu'elle est peut-être trop intense ou peut-être que l'amour n'est pas mis au bon endroit, peut-être qu'il devrait s'exprimer différemment. Mais en tout cas, oui, ça m'était important d'écrire sur l'amitié et notamment sur les amitiés entre femmes parce que je pense qu'elles ont vraiment quelque chose de singulier dans lequel il faut aller chercher à la fois pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça? Qu'est-ce qui manque à la société pour que les amitiés féminines et les amitiés masculines soient finalement basées sur deux modèles aussi différents? Et qu'est-ce que peut-être nous, les femmes, on peut construire dans l'amitié qui vaudrait le coup de garder à l'échelle d'une société entière?
Quel est le personnage pour lequel vous avez le plus de, je ne sais pas si on peut dire de sympathie, mais le plus d'attirance?
Alors, peut-être que sympathie, en tout cas, c'est plus facile pour moi de répondre, puisque il a été assez naturel pour moi de terminer le livre sur Rita, d'offrir une porte de sortie et un grand champ d'ouverture à Rita à la fin. Donc, je pense que ça, c'est une marque de sympathie de l'auteur indéniable. On ne sait pas trop ce que les autres vont devenir, mais Rita, on sait que ça va et que ça va aller. Ce qui ne veut pas dire que pour les autres, ça ne va pas et ça ne va pas aller. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais offrir à Rita, c'était mon cadeau. Donc ma sympathie pour Rita est assez indéniable. Mais effectivement, Légion, c'est un personnage avec lequel j'ai vécu pendant 7 ans, par lequel je suis très fascinée. Il est composite de plein de personnes et de gens qui me fascinent. Je lui ai donné un talent musical et je lui ai fait jouer la musique d'un des artistes musicaux que j'aime le plus, qui m'a beaucoup inspirée pour le roman, qui s'appelle Jessica 93. Je lui ai donné, quand je l'imaginais, j'imaginais le visage de Kristen Stewart, qui est une actrice que j'adore. Enfin, c'est un personnage que j'ai beaucoup idéalisé, que je pense que j'ai beaucoup aimé, dont je compte me faire tatouer maintenant que le livre est fini, le prénom sur le bras, parce que je fais toujours ça à la fin d'un livre, j'ai un petit rituel tatouage. J'ai dû reporter pour l'instant parce que je suis enceinte, mais voilà. Donc je pense que j'ai une fascination pour Légion. Elle est vraiment, elle est réelle pour moi. C'est comme si j'avais été amoureuse de quelqu'un. Mais c'est vrai que ma sympathie va plutôt à Rita.
Rita, voilà, Rita, personnage qui est haut en couleur, mais qui a aussi un passé très difficile.
Oui, mais qui a une manière de l'aborder. Rita, elle a eu plus d'opportunités, à mon avis, pour se construire que Légion. Elle a eu plus d'espace, on ne sait pas pourquoi. Parfois, les gens ont plus de place et plus d'espace. Elle est devenue quelqu'un qui se remet des choses, c'est quelqu'un vraiment de
Elle
résilient.
accepte beaucoup
Donc,
plus, oui.
beaucoup plus. Légion est incroyablement. Elle est forte, elle est fascinante, elle est attirante, elle est belle, elle est mystérieuse, elle est tout ce qu'on veut, mais elle est surtout sacrément dans la merde.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Mathilde Jeannin. Je rappelle le titre de votre livre Soror et c'est publié aux éditions Actes Sud. Merci à vous.
Merci Gérard.